c'est dans le texte aussi, c'est pas difficile.
C'est magnifique. Je vais lire un texte qui est malheureusement moins drôle, mais il faut que je le lise. Je ne veux pas improviser, c'est trop grave. Je voudrais rappeler ce qu'écrivait en 1966 Giuseppe Ungaretti à propos d'Henri Michaux. Je le cite. Il s'est produit dans le monde après la guerre un changement si profond qui nous a coupé de ce que nous étions et de ce que nous avions fait avant, comme s'il était passé d'un coup des millions d'années. D'un coup, les choses se sont trouvées vieillies, tout juste bonnes pour le musée. Aujourd'hui, tout ce qui est enfermé dans les livres s'écoute encore comme témoignage du passé, mais ne peut plus être accepté comme moyen d'expression propre à notre temps. On a rarement évoqué, me semble-t-il, notre culture de manière plus pertinente. Et personnellement, comment pourrais-je oublier que 1937, l'année de ma naissance, est aussi celle où les bombardiers de la Légion Condor rasaient Guernica. C'était la première fois que des militaires assassinaient délibérément les civils. Les pilotes allemands venaient d'inventer l'abattage de masse. La méthode a fait école. Aujourd'hui, presque partout dans le monde, dès que l'on a une Kalachnikov ou des explosifs, c'est sur les civils que l'on s'empresse de tirer. Pendant le siège de Sarajevo, un dessin de Plantu à la une du journal Le Monde montrait deux snipers serbes visant une cour de récréation avec leur bazooka. Le premier disait au second « L'ennui avec les enfants, c'est qu'ils bougent tout le temps. » Lorsque j'ai commencé à vouloir écrire, j'avais le sentiment très vif, comme le notait Ungaretti, que la plupart des livres que j'aimais appartenaient en effet à un passé révolu. Cela ne m'empêchait pas d'y prendre un immense plaisir. En fait, ce que je lisais semblait avoir quelque chose en commun avec nos photos d'enfance. Nous nous reconnaissons, mais sans retour en arrière possible. Pire, je découvrais à travers les livres que la Shoah, qui avait vu disparaître une bonne partie de ma famille dans les chambres à gaz, n'était pas un pur accident de l'histoire. Le nazisme ne résume pas l'Occident, écrivaient Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoulabarthe, et il n'en est pas non plus l'aboutissement nécessaire. Mais il n'est pas non plus possible de simplement l'écarter comme une aberration, ni comme une aberration simplement passée. En d'autres termes, notre culture, et pas seulement la culture allemande, ne pouvait pas être déclarée totalement innocente de ce qui s'était passé. Et je n'oubliais pas non plus que la passivité des autorités avait été totale dans l'Europe entière au moment des crimes, à de très rares exceptions près. Les seuls actes de courage avaient été des actes individuels. Un homme de ma génération avait donc bien des raisons de se méfier aussi de la littérature. Je ne pouvais pas oublier qu'encore au lycée, j'avais été transporté d'enthousiasme à la lecture d'un auteur qui semblait résumer toute ma révolte, quand en réalité, comme je devais le découvrir plus tard, il n'avait de cesse de m'envoyer à la chambre à gaz. La littérature, qui était censée donner une image aussi véridique que possible du monde, parce qu'on prenait le temps de peser chaque mot, chaque virgule, pouvait donc être à la fois séduisante, haineuse et délétère. Elle pouvait être une forme raffinée de la perversité et de la dissimulation des images. Et on pouvait très bien passer des journées, des semaines, des mois entiers à ressasser sa haine, phrase après phrase, en choisissant soigneusement ses mots pour qu'ils sonnent bien. Du coup, bien des qualités humaines, élémentaires, me semblaient plus respectables que le talent de l'écrivain. Et je ne voyais pas pourquoi tant de gens s'extasiaient à ce point devant le talent de quelqu'un qui voulait obstinément ma mort. Je me demandais du même coup s'il fallait dissocier qualités humaines et qualités artistiques, et si même ces qualités sont séparables. Après tout, Kafka affirmait que toute démarche artistique ne se justifiait qu'en fonction de la stratégie suivante, je le cite, « pour parvenir à une parole enfin vraie d'homme à homme ». Il me semblait que bien des livres n'allaient pas du tout dans le sens de cette exigence. Et le grand poète américain Louis Zoukowski rappelle cette évidence. La littérature est un art basé sur, je cite, « le langage en tant que créateur d'illusions ». Or, le mot « illusion » est presque synonyme de mensonge. Par ailleurs, vouloir séparer éthique et esthétique me semblait être une idée relativement récente. Dans l'un des très rares passages où il parle de littérature dans ses carnets, Léonard de Vinci déclare que la bonne littérature est le fait d'hommes doués, je le cite, de probité naturelle. Et il ajoute qu'il convient, en littérature, de louer l'honnêteté intellectuelle beaucoup plus que l'habileté. Plus près de nous, Stendhal fait lui aussi un lien très net entre le style et les valeurs morales. Pour Stendhal, note Claude Roy, les phrases boursouflées, la syntaxe à bourrelet, sont toujours le signe d'une faiblesse d'âme. Stendhal lui-même déclare hésiter parfois un quart d'heure pour savoir s'il placera l'adjectif avant ou après son substantif, car il cherche, je le cite, « premièrement la vérité, deuxièmement la clarté ». Plus près de nous encore, c'est Paul Celan qui écrit « seuls des mains vraies écrivent de vrais poèmes ». Je ne vois pas de différence de principe entre une poignée de main et un poème. Après deux guerres mondiales qui ont fait 70 millions de morts, est-ce qu'on ne pouvait pas envisager une littérature qui bannirait les effets trop gros, qui serait un peu moins tape à l'œil, mais chercherait à informer beaucoup plus qu'à impressionner le lecteur? Après tout, comme l'affirme Sartre, donc, qu'est-ce que la littérature ? La littérature est censée être le lieu de la conscience. Et je rappelle qu'en latin, informare signifie tout à la fois donner une forme et instruire. Trouver d'autres formes, explorer d'autres couches de notre sensibilité, c'est le grand espoir que l'on pouvait nourrir à l'époque de ce que l'on a appelé le nouveau roman. C'est aussi vrai des avant-gardes des années 60, 70, 80. On estimait que bien des choses n'étaient plus possibles, qu'il fallait trouver d'autres logiques au récit, quitte à décontenancer un peu les lecteurs. Tout cela se faisait au nom d'une éthique, puisqu'il s'agissait d'évacuer tout ce qui paraissait suranné et empêchait désormais les réalités d'apparaître. Il s'agissait en somme de rendre à la littérature un peu de sa crédibilité passée. On semble le plus souvent bien loin de ses ambitions aujourd'hui, sauf en poésie. Et c'est la grandeur de celle-ci que d'honorer le lecteur en ne lui concédant rien, pour paraphraser l'expression d'Adorno à propos de la musique de Schoenberg. Ce renoncement à toute ambition littéraire, au sens noble de ce terme, semble si bien consommé qu'en janvier dernier, le journal Le Monde publiait sur une page entière un violent pamphlet de l'essayiste Marie Gilles dénonçant ceux qui, je la cite, « pensent que la littérature pense trop ». Je la cite toujours. Nous avons forcé les écrivains à avoir honte de penser, écrivait-elle. Nous avons stigmatisé les poètes expérimentaux, les accusant d'éloigner l'homme commun de la lecture. La littérature n'est plus aujourd'hui qu'une chose vague qui évoque le moi, les brumes et le sexe. Si je tente de recenser les impossibilités qui m'apparaissaient lorsque j'ai commencé à vouloir écrire, je trouve autre chose encore. Je ne voyais pas sur quoi j'aurais pu écrire. Que nous soyons nés avant-guerre, pendant la guerre ou après celle-ci, ne change rien au fait suivant. Nous sommes tous des contemporains par oui-dire, selon l'expression d'Alain Finkielkraut. Ce que nous avons appris de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, du Goulag, nous l'avons appris par les livres. À moins d'être historien ou philosophe, nous n'avons aucune autorité pour parler de ce qui se passait lorsque nous étions encore enfants et à plus forte raison lorsque nous n'étions pas nés. C'est une différence considérable avec les écrivains du XIXe siècle. Pour leur part, ils étaient tout à fait fondés à utiliser toutes les formes de connaissances pour écrire des romans. Lorsque Flaubert écrit Madame Bovary, personne, sans doute, n'en sait plus que lui sur le pied beau. Et lorsqu'il dénonce les mœurs de province et explore les mécanismes psychologiques d'Emma Bovary, il est tout à fait fondé à le faire parce que n'existe à l'époque ni la psychanalyse, ni les sciences humaines, et que seule la littérature a ce violent désir de dévoiler ce qui est caché. Exactement à l'opposé, lorsque j'ai commencé à vouloir écrire, j'ai compris, et comme beaucoup d'écrivains de ma génération, que je ne pouvais ni parler de la Shoah, ni ne pas en parler. Parlant de la Shoah, je me serais fait l'effet d'un imposteur n'ayant strictement rien à ajouter aux travaux des historiens et des philosophes. Et en n'en parlant pas, j'aurais eu l'impression de tomber dans la futilité. Quel que soit le sujet que j'envisageais de traiter, je me voyais condamné à une sorte de demi-mensonge ou de demi-vérité, puisque ce n'était jamais l'essentiel à mes yeux. En d'autres termes encore, je me sentais condamné à ne pouvoir ni parler ni me taire, tout en ayant conscience de la gravité de la chose écrite. Et de même, j'avais bien conscience que ma biographie ne me représentait en rien. Elle paraissait écrasée par les événements. Après la catastrophe, que je sois devenu écrivain, plombier ou délinquant n'avait aucune importance au regard de la réalité profonde de ma vie. Il ne me serait donc pas venu à l'idée de parler de moi pour raconter, par exemple, mes premières aventures amoureuses. Cela aurait signifié que la catastrophe n'avait été qu'une parenthèse et que je pouvais très bien la refermer pour parler d'autre chose. Il y avait d'autres raisons encore à mon impuissance face à l'écriture. Le roman ne me convenait pas. Le héros de roman agit en fonction de sa personnalité, de son caractère. Le roman laisse donc entendre que les déterminations intérieures d'un homme décident de son destin. Or, le XXe siècle nous a convaincus du contraire. Pour les 700 000 morts de Verdun, les 300 000 morts du chemin des dames, les 6 millions de morts de la Shoah, l'idée d'un destin individuel n'avait plus le moindre sens. Tout ce qui fait qu'un homme est différent d'un autre homme s'était volatilisé. Or, le roman, par sa forme même, son enchaînement logique des faits, la psychologie des personnages, etc., tant de nous prouver le contraire. C'est sans doute pourquoi la fiction elle-même, quelle que soit sa forme, me semblait hautement suspecte. Après Freud, les romanciers n'avaient pas grand-chose à nous apprendre sur nous-mêmes. Et les déterminations extérieures étaient devenues si prégnantes que notre destin ne dépendait plus de nous. Si aujourd'hui encore, nous pouvons avoir l'illusion du contraire, c'est parce que nous avons la chance de vivre dans une vieille démocratie et que nous n'appartenons pas aux milieux les plus défavorisés. En d'autres termes, Le roman qui, au XIXe siècle, avait eu pour fonction de dévoiler les réalités, et avec souvent une détermination farouche, semblait avoir pour fonction inconsciente, un siècle plus tard, de rendre les réalités plus tolérables. La mort du roman, c'est quelque chose que l'on annonce depuis un demi-siècle au moins. C'est une banalité que de le rappeler. Et il y a un sujet, sur ce sujet, une littérature critique très abondante. Précisément, tout semble se passer, pour la majorité de nos contemporains, comme s'il s'agissait là d'une vérité que nous ne voulons pas entendre, ou que nous ne pouvons pas regarder en face. En tout cas, notre besoin de fiction reste intact, comme s'il s'agissait d'un refuge ou d'une drogue. Il serait très intéressant d'étudier le roman, non plus comme un mode de représentation sur lequel nous savons à peu près tout, mais comme un masque auquel nous serions incapables de renoncer. Louis-René Desforest est à cet égard d'une lucidité parfaite. Je le cite. « Il arrive qu'une forme, tenue longtemps pour efficace, ne réponde plus aux aspirations de l'esprit, le pire étant qu'on y persiste néanmoins, faute d'en trouver une autre à lui substituer. » Quant à Chalabov, lorsqu'il prend compte de son expérience du goulag dans les récits de la Colima, c'est au nom de la vérité qu'il exige, je le cite, l'authenticité d'un procès-verbal ou d'un récit scientifique pour fixer une réalité et une situation exceptionnelles. Chalamoff ajoute, lui aussi, comme Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoulabarthe, que ces réalités ne sont étrangères ni à l'âme humaine, ni à l'histoire. Et il conclut, je le cite, « Seul celui qui a connu cette expérience hors du commun, cette situation morale exceptionnelle, est en droit de la formuler. » Pour Chalamoff, toute fiction est donc bannie au nom d'un interdit moral. C'est aussi ce que dit Georges Perec lorsqu'il parle de Robert Antelme et de son livre « L'espèce humaine », dans lequel ce dernier rend compte de son expérience de déporté dans le camp de Croix-Rouge-Nazie. À propos d'Antelme, Perec ne parle pas du tout d'un témoin. Il parle bien d'un écrivain et affirme que cet unique livre, « L'espèce humaine », fait partie de ce que la littérature a donné de mieux dans la seconde moitié du siècle. Aux yeux de Perec, l'écrivain, en effet, est celui qui s'est trouvé une forme et les mots pour nous faire saisir ce que nous n'aurions pas su voir sans lui. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui sait écrire, c'est quelqu'un qui veut désespérément écrire parce que c'est le seul moyen d'informer. Je voudrais citer, et pour terminer, trois faits utilisés dans deux de mes textes et qui font un peu figure de ce qu'un écrivain n'oserait certainement pas inventer s'il écrivait une fiction. Et pour deux raisons au moins, il trouverait, et à juste titre, ces faits beaucoup trop énormes pour être crédibles. Et il lui paraîtrait aussi terriblement kitsch. En inventant de tels détails, l'auteur, en fait, aurait peur de passer pour un très mauvais écrivain. Voici ces faits. En 1942, dans le ghetto de Varsovie, un prestidigitateur professionnel se produisait dans les rues surpeuplées. Sans doute avait-il eu du succès avant-guerre dans un cabaret de la ville. Un jour, la colombe apprivoisée qui sortait de son chapeau avant de revenir se poser sur son bras s'envola pour de bon. Les larmes aux yeux, l'assistance la regarda longtemps qui s'élevait de plus en plus haut dans le ciel avant de franchir définitivement le mur du ghetto et de disparaître dans les nuages. Quant au prestidigitateur qui s'était courbé en attendant les applaudissements et le retour de la colombe, il pleurait lui aussi. Qui oserait utiliser une colombe, symbole de paix, qui qui choisit la liberté pour évoquer une situation où il n'y a plus ni liberté ni espoir. J'ai trouvé ce fait dans la revue Les Temps modernes et, bien entendu, la revue Les Temps modernes avait rédigé une note en bas de page pour prévenir qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une fiction. Sensiblement, à la même époque, la commandanture de Calais placardait un arrêté sur les murs de la mairie interdisant les jours de marché et par respect élémentaire pour les animaux de transporter les poulets tête en bas et pattes liées comme c'est l'usage à la campagne. Ce mode de transport était jugé beaucoup trop cruel par la commandanture. Juste à côté, un second avis était affiché mentionnant l'exécution de 8 hommes à titre de représailles. À la même date encore, en Pologne, un général SS responsable de l'acheminement vers l'Allemagne des biens saisis s'insurgeait contre la façon dont les vaches réquisitionnées étaient entassées dans les wagons à bestiaux. Dorénavant, si on ne traitait pas les bovins avec plus d'humanité, prévenait le général SS, ces subordonnés seraient passibles de sanctions disciplinaires. En fin de compte, peut-on dire que la littérature, pour rester fidèle à elle-même, doit se méfier de la littérature et au point de s'en détourner s'il le faut? Boris Blanchot estimait que la littérature commence avec la question « qu'est-ce que la littérature ?» Quant à l'écrivain, s'il a l'ambition d'écrire, il doit renoncer au don d'écrire. Faute de quoi, ajoute Blanchot, avec une ironie absolument cinglante, il ne réussit qu'à devenir un notable. Je m'empresse d'ajouter, pour terminer, que j'aurais préféré, et de beaucoup, écrire des livres très différents et à une autre époque, de beaux et gros romans, par exemple. Je vous remercie.